L'être humain a toujours cherché des sources d'énergie pour pouvoir évoluer. La force de nos muscles, le feu, le charbon, le pétrole, le nucléaire. Mais comment avoir une énergie illimitée? Vous écoutez l'épisode 64 du podcast Un Polyglotte et aujourd'hui je vais vous parler de la sphère de Dyson et du stade ultime de la collecte d'énergie. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez suivre l'épisode avec la transcription disponible sur impolyglotte.com. À la fin de l'épisode, je vous expliquerai un peu de vocabulaire, mais c'est beaucoup plus détaillé sur le document de la transcription, et vous avez aussi des flashcards toutes prêtes pour les copier-coller dans votre app de flashcards. Le lien est en description. Bon alors, voyageons un peu dans le passé pour avoir un peu de contexte. Nos ancêtres utilisaient la force de leurs bras, puis ils ont découvert le feu. Nous avons ensuite exploité le charbon et le pétrole, ce qui a donné lieu à la révolution industrielle. Puis nous avons réussi à scinder un noyau, ce qui nous a mené à l'énergie nucléaire. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est les énergies renouvelables. On est en plein dedans. Le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la biomasse et la géothermie. Je ne vais pas tout expliquer en détail parce que ce n'est pas le sujet de cet épisode, mais je ferai peut-être un épisode centré sur les énergies renouvelables. Une fois qu'on aura maîtrisé toutes ces énergies renouvelables, la logique veut qu'on se penche sur l'énergie de fusion. Ce qui est important là, c'est que notre évolution en termes d'énergie est en parfaite cohérence avec la classification de Kardashev. J'ai fait un mini podcast sur mon site pour en parler, mais vous avez le lien en description. Pour résumer, la première étape est d'arriver à exploiter toutes les énergies de la planète Terre, mais c'est seulement la première étape et on ne l'a pas encore atteinte, même si on y arrivera certainement. Et donc, le thème de cet épisode, c'est de voir ce qui se passera après cette première étape. Quel est notre objectif après ça? En fait, si on part du principe que la race humaine est là pour survivre et proliférer, il faudra bien un jour coloniser d'autres planètes. Pour ce faire, on aura besoin de beaucoup d'énergie. Et quand je dis beaucoup, je veux dire beaucoup. Genre, tout ce qu'on peut avoir sur Terre, c'est presque rien si on veut s'établir sur plusieurs autres planètes. Du coup, la source d'énergie la plus intéressante, c'est notre étoile. A.K.A. le Soleil. Pour vous donner une idée, le Soleil serait environ 100 quintillions de fois plus puissant que notre meilleur réacteur nucléaire. En fait, le Soleil, c'est un peu comme s'il y avait un billion de bombes nucléaires qui explosaient en continu chaque seconde. Maintenant, vous comprenez pourquoi il fait un peu de lumière et de chaleur. Donc là, du coup, on arrive à la question qui nous intrigue tous. Comment on fait pour récupérer l'énergie du Soleil ? Bon alors, il y a un concept de structure qui nous permettrait de collecter l'énergie d'une étoile telle que le Soleil, et cette structure s'appelle la sphère de Dyson. Vous avez toutes sortes de designs dans ma publication sur la classification de Kardashev. On ne sait pas toujours très bien quel design serait le meilleur, parce qu'on est encore loin d'une telle avancée. Pour être honnête, ce n'est même pas la peine de se pencher sur le sujet actuellement, on a bien assez de travail comme ça avec les énergies renouvelables. Mais je peux pas m'empêcher de penser à ça, et c'est pour ça que je voulais absolument faire un épisode sur ce sujet passionnant. Donc grosso modo, il s'agit de créer une mégastructure tout autour d'une étoile pour absorber son énergie et la redistribuer. C'est un exploit qui permettrait à une espèce de passer d'un stade planétaire à un stade interstellaire. Rien que le mot interstellaire, c'est la classe. En fait, pour reprendre la classification de Kardashev, l'évolution c'est on vit sur une planète. Quand on arrive à exploiter toutes les ressources, on veut s'étendre dans notre système, dans notre cas, le système solaire, puis après, on vise la galaxie, etc., etc. On fait que d'explorer et de coloniser. Alors bon, c'est quoi le type de structure qu'on voudrait faire? Si on part sur une structure solide, en forme de sphère, pour enfermer le Soleil dedans, c'est certainement pas viable parce que s'il y a des objets stellaires qui viennent s'écraser dessus, ça tiendrait pas longtemps. Surtout qu'un seul impact puissant peut ébranler toute la structure et le Soleil finirait de la détruire. Ce serait quand même dommage, vu le travail, le temps et l'argent que ça représenterait, de construire une telle structure. Surtout qu'il ne faut pas oublier un détail assez significatif. Si on enferme le Soleil dans une sphère solide, on n'aurait plus de lumière ni de chaleur dans tout le système solaire. Alors oui, on pourrait trouver un moyen de faire une sorte de Soleil artificiel avec toute l'énergie de notre propre Soleil, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc l'idée la plus sûre, ce serait ce qu'on peut appeler en français un essaim de Dyson. Quand on dit un essaim, ça veut dire plein de petites choses regroupées. On peut parler d'un essaim d'abeilles, par exemple. Bon, bah là, l'objectif serait de faire une sorte d'essaim de satellites tout autour du Soleil. Des satellites munis de panneaux solaires ou de réflecteurs d'énergie pour la rediriger. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de spectacles de drones la nuit, ça me fait penser un peu à ça, genre des milliers de drones qui formeraient un essaim en forme de sphère. D'ailleurs, je précise que actuellement, faire un essaim de Dyson est considéré comme la forme la plus logique de se procurer de l'énergie illimitée. Donc si on veut trouver une espèce alien avancée, il suffit d'observer l'espace et de chercher des sphères de Dyson. Pour le moment, on n'en a pas trouvé. Bon alors, c'est bien beau tout ça, mais vous vous doutez bien que ça représente beaucoup de travail pour créer un truc comme ça. Je pense qu'il faut visualiser la taille du Soleil, en comparaison à la Terre, je veux dire. Le Soleil fait 1 392 000 km de diamètre, et la Terre, elle fait 12 742 km de diamètre. Donc bon, c'est ridicule quoi. Alors pour faire un essaim de satellite autour du Soleil, si on part du principe qu'un satellite pourrait faire 1 km², il en faudrait environ 30 quadrillions pour entourer le Soleil. Alors, si ce sont des numéros qui sont difficiles à visualiser pour vous, regardez la transcription, je vous écris tous les numéros de plusieurs façons différentes. Imaginez les matériaux qu'il faut pour construire autant d'engins. Imaginez un peu le bordel. En fait, je crois qu'il faudrait approximativement 100 quintillions de tonnes de matériaux pour pouvoir construire tout ça. Vous comprenez maintenant que ce n'est pas possible en restant sur Terre, même avec toute la bonne volonté et toutes les ressources du monde. Alors comment on fait les gars ? Bon alors, comme pour l'épisode 62 sur la colonisation de Mars, je vous rappelle que le premier objectif de la conquête spatiale pour le moment c'est d'établir une base sur la Lune. Ensuite, il faudra l'aménager pour manufacturer tout ce dont on a besoin pour voyager dans l'espace, mais je vous ai déjà dit que je ferai un épisode sur la Lune. Bon, revenons à nos moutons. Comment on fait pour trouver tous les matériaux qu'il nous faut pour construire tous nos satellites ? Bah, c'est pourtant facile sur le papier. Il suffit d'aller dépouiller une planète entière. En gros, il faut trouver une planète qui est pas trop loin et qui possède les matériaux qui nous intéressent. On prend tout ça et on sacrifie un peu cette planète dans le sens où, de toute façon, on ne colonisera pas cette planète dans le but d'y vivre. Ce sera simplement une planète qu'on va miner et utiliser pour manufacturer nos engins. Alors, comme on veut s'établir sur Mars, on élimine la planète rouge. Du coup, ce serait stratégique de choisir l'étoile du berger, j'ai nommé Vénus, ou Mercure. En fait, c'est logique de prendre Mercure. C'est la planète la plus proche de notre Soleil, et elle possède tous les matériaux dont on a besoin. Du coup, la proximité est un avantage certain. Parce que bon, va bien falloir les envoyer autour du Soleil, les satellites. En plus, c'est une coïncidence qui joue en notre faveur. Mercure n'a pas d'atmosphère, et sa gravité n'est que l'équivalent d'un tiers de la gravité de la Terre. Pourquoi c'est important, me direz-vous ? Eh bien, parce que du coup, c'est plus facile de propulser des engins dans l'espace. Et bon, évidemment, c'est provisoire parce qu'on va complètement détruire Mercure pour prendre tout son fer et construire nos bidules. Ah, au fait, vous vous posez peut-être la question de savoir si nous, humains, on peut aller sur Mercure. La réponse est probablement non pour le moment. La raison principale étant la température. Moins 170 degrés Celsius la nuit et jusqu'à 450 degrés le jour. Moi, j'ai du mal à supporter les 30 degrés à Barcelone. Donc bon, en gros, si on veut faire ça, faudrait aussi songer à créer des robots super développés qu'on enverrait là-bas, à notre place, pour faire le sale boulot. Et comme c'est relativement loin et beaucoup de travail, le top du top, ce serait d'avoir des robots qui peuvent se reproduire eux-mêmes. Du coup, c'est encore loin parce qu'on n'a pas encore réussi à créer des nanorobots qui peuvent se reproduire. Mais ça arrivera certainement. Donc avec l'avancée de l'intelligence artificielle et les robots comme Boston Dynamics ou Tesla, pour en nommer deux, on peut espérer. Un autre obstacle à prendre en compte, c'est que Mercure est principalement constitué de fer, principalement son noyau. Mais il y a une couche d'environ 500 km qui n'est pas du fer. Du coup, il faut trouver un moyen de creuser pour extraire le fer. Dites-vous bien que sur Terre, on creuse à des distances comme 10 ou 12 km max. Donc c'est pas gagné cette histoire. Je n'ai pas parlé de l'énergie nécessaire pour fabriquer tous les satellites et alimenter les robots sur Mercure, mais ça, c'est relativement facile. En fait, il faut juste assez d'énergie pour faire le premier satellite et le mettre en orbite autour du Soleil pour qu'il commence à collecter l'énergie solaire et la redistribuer à l'usine de fabrication sur Mercure. Du coup, ce sera exponentiel parce que plus on met de satellites autour du Soleil, plus on accélérera le processus de fabrication. Mais du coup, il reste encore un problème. Comment on fait pour transférer toute cette énergie à la Terre, Mars ou la Lune ? Je vous avoue que je sais pas. Je précise que tout ceci n'est que de la science-fiction pour le moment, mais c'est très logique et cohérent. C'est juste difficile de se projeter parce qu'on est encore loin de cette étape dans notre évolution. Alors on arrive à la partie que je préfère, celle où je pose quelques questions un peu plus philosophiques. La première c'est, est-ce vraiment notre destinée de continuer à coloniser au-delà de notre propre planète ? Peut-être que notre espèce est condamnée à rester sur Terre, et il y aurait donc une fin à notre évolution. Un peu comme un poisson qu'on mettrait dans un aquarium de petite taille, et qu'il conditionnerait donc à ne pas beaucoup grandir. J'avoue que c'est un peu triste de penser comme ça. Je préfère me dire qu'il n'y a pas de limite à notre évolution et qu'on n'aura donc pas de problème de surpopulation. D'ailleurs, en parlant de surpopulation, c'est un épisode que je ferai. Trois autres interrogations me passent par la tête et je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sur mon site internet, dans la rubrique podcast. Vous pouvez commenter chaque épisode. Est-ce que la conquête spatiale est vraiment nécessaire pour l'évolution de l'humanité ou est-ce une simple quête de gloire et de domination ? Deuxième question, est-ce que la vie multiplanétaire est une étape logique dans l'évolution de notre espèce, ou est-ce que cela risque de conduire à une fragmentation et une dilution de l'humanité ? Et enfin, est-ce que la création d'une sphère de Dyson est une preuve de notre capacité à maîtriser l'énergie, ou est-ce que cela risque de nous rendre encore plus dépendants de sources d'énergie toujours plus puissantes et potentiellement dangereuses ? Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, mais avant de partir, je vous propose de voir un peu de vocabulaire. N'oubliez pas que vous avez beaucoup plus d'explications sur le document de la transcription et que vous avez aussi quelques flashcards qui sont prêtes pour vous. Le charbon, coal, el carbón, le pétrole, oil, el petróleo, l'énergie nucléaire, nuclear energy, la energía nuclear, le solaire, solar, la energía solar, l'éolien, wind, la energía eólica, l'hydraulique, hydraulic, la energía hidráulica, la classification de Kardashev, the Kardashev scale, la escalade des Kardashev. Un essaim de satellites, a swarm of satellites, un enjambre de satélites.